En inspirant un texte particulièrement beau, le Saint-Esprit voyait déjà dans l'avenir et dans les siècles à venir des milliers, des millions de gens qui allaient être bénis, encouragés, touchés, renouvelés par ce texte que je vais vous lire dans quelques instants et que vous allez lire avec moi. Et le Saint-Esprit savait que ce genre de révélation était absolument indispensable, même des siècles, voire des millénaires après. C'est quand même incroyable quand on pense que nous avons devant nous un livre qui a 2000, 3000, 500 ans d'âge. Je ne sais pas si quelqu'un réalise ce que ça veut dire. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'ouvrages qui ont une telle espace de temps et un tel âge? C'est un héritage pour l'humanité que nous avons entre nos mains. C'est tout simplement incroyable et il faut se le rappeler que combien de gens ont payé de leur vie pour que nous ayons ce livre aujourd'hui? Combien? Mais nous l'avons et le Saint-Esprit a une intention, c'est pourquoi nous devons toujours prendre au sérieux la parole de Dieu, toujours. Et quel que soit le temps dans lequel nous vivons, qui n'a, il faut le dire, plus rien à voir avec le temps de l'époque où ces écrits ont été faits, ont été mis sur papyrus ou sur parchemin, eh bien, l'intention du Saint-Esprit et la puissance de la parole n'a pas changé. La puissance de la parole est toujours autant forte. Cependant, pour qu'elle ait un impact ce matin dans nos vies, nous devons avoir un cœur réceptif et ouvert. Quelqu'un me disait récemment, mais oui, mais quand un tel prêche, ça ne me parle pas. Quand un tel prêche, c'est du déjà connu. Pourquoi? Parce que lorsque notre cœur est déjà plein de préjugés, lorsque nous sommes déjà, nous nous sentons supérieurs et croyons tout savoir, notre cœur n'est pas réceptif et le Saint-Esprit ne peut rien faire du tout. Par contre, lorsque votre cœur est ouvert, je dirais n'importe qui ferait une lecture biblique ce matin, vous seriez déjà touché. Parce que votre cœur est ouvert et vous vous soumettez à la parole et vous dites « Seigneur, parle-moi ». Il peut vous parler par un enfant, comme par un pasteur, quel qu'il soit. Ce texte de ce matin regorge de vérités profondes, de profondeur de révélation. Et même si vous dites « Mais je le connais ce texte », vous savez, il y a toujours plusieurs niveaux de révélation. Il faut aller chercher le niveau plus profond encore. Creusez encore, méditez encore, et vous allez tout à coup voir des jardins nouveaux qui s'ouvrent, des portes nouvelles qui s'ouvrent. Vous allez voir des révélations nouvelles qui s'ouvrent devant vous, même au travers d'un texte connu. C'est pourquoi un texte, tout simple, peut nous parler à plusieurs reprises, dans la mesure où nous avons un cœur réceptif et ouvert. Le but étant que nous puissions nous approprier les vérités de Dieu, pas seulement les connaître avec notre tête, mais les approprier, les proclamer et les mettre en pratique. C'est ça le chemin de la Bible, c'est apprendre, connaître, intégrer dans notre vie, l'absorber, et puis ensuite le redonner d'abord par sa bouche, par la proclamation, et puis par le partage en donnant plus loin. Est-ce que vous comprenez ce chemin? C'est ça, c'est pas seulement connaître et puis ça s'arrête là, non. Connaître, c'est la première phase, c'est intégrer, se l'approprier, il faut que la parole devienne chair en nous. Et ensuite, on le proclame, on le dit. La foi grandira à ce moment-là. Et ensuite, on le partage, on donne. Et plus on sème, plus ça se multiplie. Comme les 5 pains et les 2 poissons, plus tu donnes, la bénédiction de Dieu fera en sorte que ça se multiplie. Nous allons donc lire le psaume 23. Ah, je vous entends. On connaît déjà. Et même si vous croyez que tout a été dit, je vous dirai ce matin, tout n'a pas encore été dit. L'Éternel est mon berger. Faites le chemin que je viens de vous dire. Écoutez, absorbez, redites, proclamez, recevez pour vous et ensuite partagez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça, c'est la première strophe. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est la deuxième strophe. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Ça, c'est la troisième strophe de ce merveilleux psaume 23. Une révélation que David a reçue lorsqu'il était encore berger, chantre et adorateur. Lorsque vous êtes adorateur, vous recevez des révélations. Lorsque vous louez Dieu, les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit vient vous parler. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement ce psaume ? Au point qu'il a été lu devant des centaines et des centaines de personnes qui étaient en train de mourir, on leur a lu le psaume 23. Un jour, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que je pourrais lire à une personne qui est en fin de vie ? Vous vous trompez jamais en disant, lis le psaume 23. Vous ne trompez pas. Ce psaume est apaisant. Et ensuite, tout le monde s'y retrouve, même si on n'a jamais été berger, et que vous avez vu des brebis seulement sur des images ou sur des photos, on s'y retrouve dans ce psaume. Tous. Il a rejoint tant et tant de situations de vie. Ensuite, c'est un psaume tellement personnel. Il est question de deux personnes, du berger et de moi, simplement. Celui qui écrit ce psaume est son berger. Une seule fois, nous voyons les ennemis, mais ils sont à distance. Et puis, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que la marche de la vie chrétienne est décrite dans ces six versets, tout simples. Et tous les besoins de l'homme s'y trouvent. Et les réponses divines s'y trouvent aussi. En six versets, vous avez l'énumération de vos besoins et des réponses de Dieu. Ah, j'aime avoir contact avec les gens qui savent en peu de mots vous dire l'essentiel. Ce n'est pas du baratin, c'est dire l'essentiel en peu de mots. C'est tellement précieux. Nous avons donc dans ce psaume une triple révélation du Seigneur. Et vous savez, chaque texte biblique est une révélation de Dieu. Révélation de l'homme, de ses besoins, de son cœur, situation du monde aussi parfois. Mais ici, il est question d'une révélation de qui est Dieu. Durant cet été, puissions-nous connaître Dieu davantage. Seigneur, je veux te connaître, car tu es, dans la strophe 1, mon berger qui pourvoit à tous mes besoins. Tu es mon père et mon guide, dans la strophe 2. Et tu es le roi qui est puissant, qui m'accueille. Je suis ton hôte et c'est toi qui me prépares une table. Le roi puissant, c'est la troisième partie de ce psaume. Avez-vous remarqué que David, qui a écrit tellement de psaumes, ne va pas se plaindre? Il ne va pas revendiquer quelque chose, il ne va pas demander la mort de ses ennemis, il ne va pas pleurer sur ce qui se passe autour de lui. Aucune demande, aucune revendication, juste de l'adoration pour son berger divin. Un enfant devait réciter le psaume 23 et il avait beaucoup de peine à apprendre ce psaume par cœur. Donc il s'était entraîné à la maison et arrive le jour de l'examen, mais avec le stress de l'examen. Excusez-moi de vous parler d'examen, je sais que c'est fini pour la plupart, mais je voulais juste rappeler ça. Et puis cet enfant, il est là, il est stressé, puis il commence quand même. Le début, c'est quand même pas trop difficile d'apprendre. Alors il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il cale, il n'arrive plus. Il attend quelques instants et puis il dira, ça me suffit. Je ne sais pas quelle note il a eue, hein, mais en tout cas, rien que le fait de savoir que l'Éternel est votre berger, cela est déjà suffisant. Vous avez tout pleinement en lui. J'aimerais rappeler que chaque être humain a besoin d'un berger. Est-ce que vous réalisez que vous avez besoin d'un berger ? Parce que le Seigneur aurait pu nous parler que nous sommes des chèvres ou nous sommes des bouquetins. Vous savez, ces chèvres et ces bouquetins, ils se promènent, ils sont les maîtres des montagnes. Vous ne pouvez pas les capturer ou difficilement, ils sont capables d'être avec leurs pieds dans l'équilibre, dans les endroits les plus improbables. Mais ils sont tellement indépendants, ces bêtes-là, que la Bible a choisi de nous comparer à des brebis. À des brebis qui sont, c'est peut-être pas très valorisant dans un premier temps, mais Une brebis, ça n'a aucun sens de direction, peu capable de se débrouiller. Elle n'a aucune griffe pour lutter contre l'adversaire. Elle est incapable de se défendre et de courir vite pour échapper à l'ennemi. En plus de ça, elle se salit pas mal et elle ne vit que grâce à la protection et à la sollicitude du berger. Non, le Seigneur ne nous compare pas à des êtres indépendants qui sont capables d'à peu près tout, mais à des êtres fragiles qui ont besoin de rester dans le troupeau et d'un bon berger. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui se disaient forts et qui ont dit « mais l'évangile, c'est pour des gens faibles, pour des gens qui ne savent plus trouver aucune marge pour se rattraper quelque part, qui ont besoin d'appui, de canne, de béquilles pour survivre, ils sont faibles. » Mais ces mêmes personnes fortes là, je les ai vues trembler sur leurs pieds solides, passer des nuits blanches lorsque plus fort qu'eux les a terrassés, lorsque, suite à des coups durs, à des pertes sévères, d'ordre personnel, financier, face à une opposition farouche, une maladie ou un accident, un divorce ou un mariage malheureux, un imprévu ou des éléments naturels déchaînés contre leurs biens, qu'ils étaient sur terre ou dans les airs, dans les avions, ils ont fini par reconnaître qu'ils étaient bien, bien, bien fragiles, malgré leur force apparente, qu'ils étaient seuls et très limités, qu'ils ne ressemblaient pas à des bouquetins qui sautent partout et qui sont capables de se débrouiller en toute situation, mais qui sont véritablement des brebis qui ont besoin d'un berger. Ce matin, mon ami, tu as besoin d'un berger. C'est la première étape qu'il faut franchir. Il faut reconnaître notre besoin. J'ai besoin que Dieu devienne mon berger. Pas un berger, mais mon berger à moi. Dans mon témoignage, j'aime le dire que j'avais été élevé, éduqué dans une foi où on craignait Dieu, certes, mais où il n'y avait pas l'expérience de la foi. Et pour moi, l'image de Dieu était tellement incomplète, tellement pauvre, tellement faussée aussi, que c'était un Dieu de loin et non pas un Dieu de près comme le berger. C'était un Dieu de qui il fallait se tenir en garde plutôt que d'un père compatissant. Je ne le connaissais pas. Ce matin, je ne sais pas quelle est votre image de Dieu. Mais ce matin, je veux prier que l'Éternel devienne votre berger personnel. Vous puissiez le chérir comme jamais. Vous puissiez tous les jours de votre vie savoir qu'il est, qu'il restera toujours votre berger à vous. Vous pouvez faire appel à lui jour et nuit, 24 heures sur 24. Jusqu'à votre dernier souffle, il sera, parce qu'il l'a dit, qu'il s'engagerait, votre berger jusqu'à la fin de votre vie. Votre berger. C'est pourquoi ce texte est chéri par les gens qui passent justement dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi il est aimé à cause de cela. Tout comme j'ai vu des forts qui croyaient ne jamais avoir besoin de Dieu dans leur vie, devenir faibles, secoués par les éléments et les imprévus de la vie, j'ai vu des faibles être sereins dans l'épreuve. Des gens tout menus, tout sans grande apparence, être forts et interpellés. Les gens debout, à cause de la paix, de la sérénité, de la confiance qu'ils avaient alors qu'on leur prenait des choses, alors qu'ils n'avaient rien, qu'ils perdaient tout, ils étaient différemment disposés parce qu'ils avaient dans leur cœur l'Éternel, leur berger. Alléluia. Ils étaient comme un arbre qui se plie dans la tempête, mais qui a des racines. Et une fois la tempête passée, il reste debout, tandis que le fort qui se croit un arbre géant, mais qui n'a pas de racines en réalité, lorsque le vent souffle fort, souvent il reste par terre et il ne se relève pas. Le psaume 23, bien sûr, fait écho à Jean chapitre 10, où Jésus va dire « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Car un seul, et un seul est digne de porter ce nom-là, de s'appeler le bon berger. Pourquoi ? Parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour vous et j'aimerais que ce message soit intégré tout à nouveau ce matin. Il a donné sa vie pour moi. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu es venu me récupérer au bord des précipices et dans les endroits où j'étais prisonnier de ceci ou de cela. Tu es venu me chercher et tu m'as pris sous ta garde. Tu m'as pris parce que tu m'aimais. Tu tremblais pour moi et tu t'es mis en marche même la nuit pour me récupérer. Tu es le bon berger. Tu as fait tes preuves. Je n'ai pas besoin de chercher un autre. J'ai toutes les preuves qu'il me faut dans ce livre, dans tout ce que Jésus a fait. J'ai toutes les preuves. Et si nous avons une croix ici, c'est pour nous rappeler toujours et toujours que la preuve ultime se trouve là, dans cette croix à Golgotha dressée un jour sur le mont du Calvaire, où Jésus a donné sa vie parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et si quelqu'un ce matin ne sait pas encore qu'il a lui aussi un berger qui est là pour lui faire signe ce matin, « Je suis ton berger », est-ce que tu m'as déjà reçu? Est-ce que tu m'as déjà accepté dans ta vie? Est-ce que tu marches avec moi ou est-ce que tu as entendu parler de moi? Ça ne suffit pas, mes amis. Ce matin, choisissez que l'Éternel devienne votre berger personnel. Que ce matin, vous puissiez dire, je savais bien sûr que ça existait, le psaume 23. Je savais que Dieu était là, qu'il était mort pour nous, mais il n'est jamais devenu mon berger. Ce matin, faites cette démarche. Tout à l'heure, je prierai avec vous pour que vous puissiez la faire de manière très concrète. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il donne l'autorité de devenir enfant de Dieu, nous dit le texte, Jean 1, 12. Le pouvoir, l'autorité. Vous recevez un statut en devenant la brebis personnelle du Seigneur, l'enfant de Dieu. Oui, il faut qu'il devienne votre berger. Et le berger a tant de qualifications qu'il va pourvoir à tous vos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Pourquoi ? Parce que sa présence, dans sa présence, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Si vous connaissez Dieu et que vous êtes privé de sa présence, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez connaître Dieu et connaître sa présence. Connaître pas seulement sa puissance, mais sa présence. Sa présence remplit tous les vides et vous donne l'apaisement dont vous avez besoin. Vous rassure dans toutes les situations. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien, nous dit le texte. Je ne manquerai de rien. Rappelons que ce texte est strictement personnel. Il a vraiment le pouvoir et l'autorité pour répondre à tous mes besoins. Me donner la paix et l'assurance, il me fait reposer dans les verts pâturages. Car dans une activité frénétique même, j'ai besoin de ce repos intérieur. Vous savez, l'homme ne se fatigue pas à cause de ses travaux nombreux. On peut travailler tôt le matin jusqu'à tard le soir en étant en pleine forme. Peut-être que je compte un peu parmi ceux-là, un peu. Mais je ne suis pas le seul. Mais vous savez, ce qui fatigue des gens qui travaillent peut-être pas toujours autant, ce sont les agitations intérieures qui les empêchent de dormir et d'être sereins. Et il y a une clé dans la vie chrétienne, c'est de garder précieusement cette sérénité. Ce n'est pas facile de toujours rester en paix. Quand vous êtes touché dans ce qui vous est précieux, dans ce qui vous est cher, c'est difficile de garder la sérénité totale. Il y a une lutte, il y a un combat. Et le berger, dans sa présence, nous promet de nous faire reposer quelque part où il fait bon vivre, dans sa présence. Ce n'est pas forcément aller chercher le bout du monde pour avoir les meilleures vacances, et je vous souhaite à tous des bonnes vacances, bien sûr. Faites-vous du bien, mais la présence de Dieu calme l'âme. La nature calme beaucoup de choses, elle est bienfaisante, mais le cœur doit être calmé par la présence du bon berger, n'est-ce pas? La présence du bon berger apaise, nous donne les verts pâturages et les eaux paisibles. Je ne manquerai de rien. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment tout ce que je désire? Car il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'est pas dit tout ce que tu désires, mais ce que ton cœur désire. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment ce que mon cœur désire? Et la réflexion a été la suivante. Si je fais de l'Éternel mes délices, si l'Éternel est vraiment mon berger et que je vis dans sa présence, si je fais de l'Éternel mes délices, alors les délices du Seigneur deviennent mon délice. Alors la volonté du Seigneur devient précieuse pour moi. Alors ses souhaits et ce qu'il désire pour moi devient important pour moi. Et je ne vais pas demander n'importe quoi, mais je vais m'orienter d'après ce que lui dépose sur mon cœur. C'est pourquoi celui qui fait de l'Éternel ses délices ne demandera pas n'importe quoi pour vivre de l'insatisfaction, mais il vivra et il demandera ce qui plaît au Seigneur. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur en communion avec lui, désire. Parce que ce qu'il a mis comme désir en vous, c'est le désir divin. Le désir de Dieu est descendu dans votre désir personnel, vous a transformé, vous avez mis de côté des désirs égoïstes et inutiles. Et ainsi, la parole de Dieu ne ment jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans quel domaine as-tu besoin d'être restauré ce matin ? Dans quel domaine est-ce qu'il y a besoin de restauration ? Il restaure mon âme. Il redonne des forces à mon âme. Il redonne un renouveau, une motivation, un nouveau souffle, une joie du service. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé par le bon berger ce matin ? Et tout à l'heure, nous allons prier aussi pour vous. Afin que vous puissiez dire, c'est vrai ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas juste un texte poétique et simpliste, c'est une vérité puissante, il restaure vraiment mon âme. Oh, combien de fois n'ai-je pas vu d'une manière surnaturelle la restauration se produire en moi, lorsque je me sentais un peu au bout de force, arrivé à mes limites, j'ai vu quelque chose de divin, de surnaturel prendre le relais. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça déjà ? Quand le surnaturel prend le devant et vous emmène à vivre une restauration surnaturelle, parce que le bon berger, c'est Dieu lui-même qui agit. Ensuite, il est dit, et nous passons de la strophe 2, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et David, dès son jeune âge, il faut le rappeler, a connu beaucoup d'injustices. David n'était pas le garçon qui était au-dessus de tout. Il était le dernier d'une grande fratrie, vous vous souvenez ? Et lorsque Samuel, le prophète, arrivera pour choisir le nouveau roi d'Israël, il arrivera dans la famille de Jessé, qui était Isaïe, et il dit « Où sont tes fils ?» Et voilà, il présente ses fils et il va prendre le premier, le deuxième, le troisième, vous connaissez le récit. Mais Dieu lui dit « Non, ce n'est pas lui, ce ne sera pas lui. » Et il va demander « Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ?» Et le père de répondre « Ah oui, il y a encore quelqu'un. » Si on vous traitait comme ça, le père ne pense même pas aux petits derniers, alors que souvent les petits derniers sont les chouchous, hein, sont les gens les plus… faut pas toucher aux petits derniers de la famille. Mais David était oublié par son propre père. Il était… voilà, il faisait les petits travaux. Il n'était pas très accueilli, pas très aimé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa propre famille. Il y a beaucoup de textes qui nous le montrent. Il a subi de nombreuses injustices. Les psaumes sont remplis de textes qui montrent cela. Il a eu tant de revers, tant de souffrances. Et il va dire, « Dieu me conduit dans les sentiers de la justice. » Si vous avez subi des injustices, que vous vous êtes dit, « Mais ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Ce n'est pas juste ce qu'on m'a fait. » Ce n'est pas juste ce que j'ai subi récemment. Ce n'est pas juste, vraiment ce n'est pas juste. À vos yeux, ça semble trop injuste. J'aimerais vous dire ce matin, sur base de ce psaume, que vous avez un Père qui s'appelle « Je suis le Dieu de justice ». Il nous conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Ça veut dire « Mon nom, je suis le Dieu de justice et je ne peux pas changer. Je ferai toujours justice à mes brebis ». Je les conduirai toujours sur un chemin juste. Mais il vous semble que votre chemin n'est pas le chemin de justice. Vous êtes conduit sur un chemin qui n'est pas le chemin de justice. Dieu te dit ce matin, ce que tu vois avec tes yeux humains est une chose. Ce que moi je vois avec mes yeux, c'est le chemin de justice pour toi quand même. Parce que sur ce chemin-là, qui te semble tellement mauvais, souffrant et injuste, il y a une éducation. Il y a un chemin à suivre, il y a un apprentissage à faire, il y a une transformation à vivre, il y a quelque chose de divin que je fais dans ton cœur, à cause de mon nom je le fais, parce que je t'aime et je suis le Père qui suis tout près de toi. Je suis personnellement vigilant à ce que tu vis. Ne dis pas c'est trop injuste, il y a trop d'injustice, il n'y a pas de justice, on entend souvent ça, il n'y a pas de justice au niveau humain. Vous serez toujours déçu par certaines justices humaines, toujours, quelque part. On est tous frappés par des choses qui nous semblent injustes. Mais au-dessus de l'injustice humaine se trouve la justice divine. Un jour, toutes choses seront mises en lumière et toute l'humanité et tout ce qui se trouve dans le ciel va applaudir en disant « Dieu, enfin justice est faite, car tu es le Dieu juste et tu tireras au clair tout ce qui n'a pas fonctionné sur cette terre. Il y a des milliards de choses qui n'ont pas été, mais Seigneur, un jour auprès de toi, il y aura toute justice qui sera faite. Rien ne sera à redire, personne ne pourra redire quoi que ce soit, car le Dieu juste va faire éclater toute chose en pleine lumière. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors ne te plains pas, brebis du Seigneur, de ce qu'il te semble que le chemin n'est pas le chemin de justice, car il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce qu'on veut le dire ensemble ? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, parce qu'il est le Dieu de justice, parce qu'il est le Dieu de justice. Quelqu'un disait, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il me conduira dans toute la vérité. Il faut que je reste patient et calme. Et la difficulté, mes amis, c'est que souvent, quand les choses nous semblent injustes, on veut tout reprendre en main à un moment donné. On patiente un moment, puis après, c'est toujours l'injustice, alors on prend tout en main. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin. Tu es peut-être sur le point de prendre les choses en main parce que tu n'arrives plus à patienter et attendre. Et tu te dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Laissez-vous vraiment conduire par le Saint-Esprit pour savoir si vraiment c'est le moment de faire quelque chose ou si c'est vraiment finalement l'école par laquelle vous devez passer, le chemin par lequel vous devez passer pour apprendre ce que vous ne pouvez pas apprendre autrement. Personne d'entre nous ne choisit le chemin de l'injustice et de la souffrance et de la solitude. Personne. Personne ne choisit de descendre dans la vallée sombre de l'ombre de la mort. Personne ne choisit ça. Mais Dieu le choisit pour nous, mais il nous accompagne. Parce que c'est là que nous vivons des choses que nous n'oublierons plus jamais. C'est là que nous sommes transformés. C'est là que nous sommes dans une expérience de proximité avec Dieu comme jamais. C'est le chemin sur lequel il nous instruit. Il nous est dit aussi, ainsi parle maintenant l'Éternel dans Ésaïe 43. Celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Le Seigneur ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Même si les choses vous semblent limites, le Seigneur va doser cela. Il est le Dieu de justice. Il vous conduira, il sera proche de vous, il vous aidera en toute situation et même lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Père qui guide va doser ce que nous pouvons vivre et supporter. Car dans la vallée sombre, où le chemin se resserre, où la lumière devient ombre, où les montagnes angoissent et écrasent, semblent nous étouffer, où les amis se font rares, où la solitude pèse et menace, où parfois ça descend plus bas que ce qu'on avait prévu ou pensé. Comme dira l'apôtre Paul, lutte au dehors, crainte au dedans, affligé de toutes sortes de manières. Ces passages-là, nous ne les choisissons pas, personne ne les choisit. Mais Dieu permet, il autorise que ces choses arrivent dans nos vies, que nous arrivons parfois à nos limites. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ton berger ne permettra pas que ta vie se termine là. Ton berger veille sur ta vie. Saisis la main du berger. Approche-toi du berger. Dis, crie ce matin, l'Éternel, tu es mon berger. Ce qui est écrit dans ce psaume, je suis en train de le vivre, en train de le passer. Mais je sais que tu es avec moi. Alors que il nous est dit dans les versets 1, 2 et 3, il me fait reposer, il me dirige, il restaure, il me conduit. Il est maintenant dit, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi, c'est encore plus proche. Approche-toi encore, mon frère, ma sœur, approche-toi encore. Fais comme cette femme dont j'ai parlé il y a 15 jours, qui ne recevait pas de réponse de Jésus, qui était repoussée par les amis de Jésus, les disciples, et qui ne savait plus comment prier parce qu'elle avait bien prié auparavant. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus, elle s'est prosternée, elle dit « Secours-moi !» Et le Seigneur l'a secouru. Mais il a aussi testé sa foi. Et l'épreuve est un test de foi. Je vous lis un tout petit texte que j'ai écrit dans mon livre sur Joseph, que vous pouvez trouver sur Internet ou à la sortie. Il nous est dit dans le chapitre 39, Joseph resta là en prison. Et dans le psaume 105, il est dit, verset 17, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave et on serra ses pieds dans les entraves. » Je lis. Littéralement, il est dit, « On le mit au fer, ou plus précisément, les fers vinrent sur son âme, expression des profondes souffrances morales de sa captivité. C'est Dieu qui choisit le chemin du test. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Nous ne choisirions jamais de nous-mêmes ce genre de chemin. Joseph est immobilisé par les liens physiques au fond d'une prison, mais au plus profond de lui-même, il se passe un certain nombre de choses. Est-il toujours conscient de la présence de Dieu et de ce que tout concourt à son bien? Sans doute que non. Vous pouvez être debout et fort dans l'épreuve, mais à certains moments, vous avez l'impression que votre âme est serrée, comprimée, que vous étouffez, que vous ne comprenez plus rien. Lorsque l'épreuve semble se répéter, quand le rejet s'ajoute au rejet, l'injustice à l'injustice, la déception à la déception, alors c'est la goutte de trop et l'âme craque. Vous êtes dégoûté. Les questions surgissent. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça m'arrive? Même prier dans ces moments devient difficile. On a interrogé le journaliste Roger Hawke, otage français à Beyrouth, rendu à la liberté le 27 novembre 1987, après 319 jours de captivité. En lui demandant quels étaient ses regrets, il répondit « Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Cette captivité était nécessaire pour que je prenne conscience de Dieu et de son existence. » Jésus lui-même a passé devant vous dans cette vallée-là. Même s'il vous semble être tellement seul, Jésus est passé par là. Jésus comprend, Jésus ressent, Jésus a compassion parce que lui-même, dans son chair ou dans son esprit ou dans son cœur, il a pris sur lui toutes les vallées impossibles des hommes. Il a passé par où vous passez. Il sait, il peut comprendre ce que vous vivez. Et même à l'heure de la mort, la traversée ultime est solitaire. La présence du berger, du père, de la vie et de la résurrection est tellement indispensable. Ta houlette et ton bâton, c'est toujours le père qui parle, la houlette et le bâton me rassurent. La houlette sert à compter les brebis, à les ramener dans le troupeau, à les rassurer, à les compter aussi. Ta houlette veut dire, Seigneur, je t'appartiens, tu me ramènes. Seigneur, tu veilles sur moi, Seigneur, ta houlette. Est-ce que vous vous laissez ramener par le Seigneur dans son troupeau ce matin? Est-ce que vous êtes un peu éloigné que sa houlette vous ramène? C'est accroché, la houlette, elle nous ramène, elle tire la patte pour ramener la brebis là où il faut être. Laissez-vous ramener au bon endroit par le berger. Et le bâton, c'est pour l'ennemi. Le bâton, c'est pour faire fuir l'ennemi. Et je dirais par prophétiquement, le bois du bâton, eh bien, c'est le bois de la croix, qui a été notre salut, mais qui a été la défaite totale de l'ennemi. Le bâton, c'est pour l'ennemi, la houlette, c'est pour nous ramener dans sa présence. Et je termine par la dernière strophe, tellement belle. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'adversaire est tenu à l'écart, parce que maintenant c'est le roi qui agit. Le roi et son autorité sont là pour garder l'ennemi à distance. Quel que soit ton ennemi, mon frère, ma sœur, ce matin, le roi auquel tu appartiens va te défendre. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il a autorité sur les éléments et sur les choses que tu ne comprends pas. Il a toute autorité. Et il dresse une table, c'est-à-dire que tu es son invité personnel ce matin. Tu es invité à la table du roi qui sera symbolisée par la Sainte Cène également tout à l'heure. La table du roi, c'est vraiment celui qui t'invite et tu es son invité. L'ennemi n'est pas invité. C'est lui qui garde la distance, c'est lui qui te défend, c'est lui aussi qui t'inspire son autorité pour que tu prennes position face à l'ennemi. Souvent les chrétiens prient, Seigneur, délivre-moi de l'ennemi, Seigneur, fais partir ce démon. Le Seigneur te dit, fais-le, toi-même, en mon nom, avec mon autorité. Ce n'est pas une formule magique, comme le pasteur qui était dans un train et qui voyait dans les compartiments, il entendait du bruit et les gens regardaient ce qui se passait dans le corridor. Il y avait des gens malpolis qui passaient et qui embêtaient les gens dans les compartiments, etc. et surtout les dames. Et alors, quand ils arrivent, ils ouvrent la porte du compartiment, de là où se trouve le pasteur qui se lève. Il dit, au nom de Jésus, vous reculez. Les gens se sont reculés d'un instant. Et puis, les autres dans le compartiment disaient, monsieur, monsieur, donnez-nous la formule magique. L'autorité du berger, du père, du roi, nous est donnée dans sa présence. Mais il faut l'exercer, sinon vous ne l'apprendrez jamais. Il faut l'exercer. Pas n'importe comment, inspiré par le Saint-Esprit. Et si vous vous trompez, si ça ne marche pas une fois ou deux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Continuez. Si vous priez pour les gens et qu'il ne se passe rien, continuez à prier. Ce n'est pas grave si vous sentez que rien ne se passe. L'adversaire serait tout content de vous donner un échec, une déception, un mensonge. Allez de l'avant, ne vous laissez décourager par rien. Je ne me laisse décourager par rien. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Oui, je ne me laisse décourager par rien, non. Car sa table, c'est le signe de sa générosité. Les brebis sont maintenant amenées sur les hauts plateaux où ils ont vraiment cette table. Ça s'appelle la table, les hauts plateaux où ils peuvent brouter. Et elles ont maintenant le regard sur les profondeurs, les vallées qu'elles ont traversées. Et elles sont là pour goûter à la générosité du roi. À la table du Seigneur, tu es le bienvenu. Il a dressé une table. Le Seigneur n'est pas pingre avec toi. Le Seigneur ne te prive pas. L'ennemi voudrait dire, tu vois, Dieu te prive de ci, tu ne peux plus faire ça, tu ne dois pas faire ceci. Laissez tomber ces schémas légalistes. Le roi est un roi de générosité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On n'a pas besoin de tout. On n'a pas besoin de mille et une bêtises de ce monde. On n'a pas besoin de cela. Mais l'Éternel rassasie notre cœur et il veut pourvoir à tous nos besoins. Votre besoin ce matin est pris au sérieux par le Seigneur. Tu es l'invité du roi. Il met sur toi sa coupe et ta coupe va se remplir. Il verse sa coupe divine et ta coupe à toi va se remplir. Et il est généreux avec toi, tout comme en Orient. Quand on remplit le verre, eh bien ça déborde. La table est garnie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aime bien ce mot « oui », je l'ai souligné. Oui, le bonheur et la grâce. L'ennemi dit non, le bonheur, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. La grâce, tu ne la connais pas et c'est un mot un peu bizarre que tu n'as jamais compris en réalité. Ce matin, je dis oui, le bonheur est pour moi, la grâce est pour moi. Ces deux choses m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Affirmons ces choses. J'habiterai, ça veut dire je demeure, je reste dans la maison de l'Éternel longtemps, pour la durée des temps, jusqu'à la fin de mes jours. Car au final, je suis attendu dans son palais. Dans son palais. Non, ça ne se termine pas dans une bergerie, ça se termine dans un palais. Et le palais, c'est ma bergerie quand même, où je vais retrouver mes frères et sœurs du monde entier. Alléluia. Dans ce palais, mes amis, dans ce palais, je suis attendu. Quelqu'un m'attend. Je compte pour lui, il se réjouit de me voir face à face au grand jour. Là, j'ai une place est réservée, préparée pour moi. C'est ma vraie patrie, c'est la maison de mon papa céleste, de mon bon berger, de mon père, de mon roi, de mon guide. Et en sachant tout cela, je termine en disant, si je suis tellement béni en étant la brebis du Seigneur, je choisis ce matin à devenir bénédiction pour les autres qui ne connaissent pas toutes ces choses. Je veux bénir les autres. J'ai été comblé, je veux combler. J'ai été servi, je veux servir. J'ai tout eu, je veux partager. Il est grand temps, mes amis, de laisser une trace dans ce monde et de semer ces choses derrière nous. Je vous souhaite un bel été dans ce sens-là, dans le nom merveilleux de Jésus, notre bon berger. Amen. Alléluia.